Bon, ben, c'est une surprise pour moi d'être ici, dans le sens que si on m'avait dit la semaine dernière que je serais Anthony, je ne l'aurais pas cru, mais en tout cas, je n'avais pas prévu spécialement ça, et puis encore moins d'être devant vous ce matin. Mais bon, c'est vraiment une joie pour nous d'être dans cette assemblée qui est chère à notre cœur, de revoir des têtes connues et des têtes moins connues, donc voilà. Alors, pour ce début d'année, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était de commencer par commencer par une défaite. C'est toujours plus facile de commencer par une victoire en début d'année, ou en tout cas, de commencer par quelque chose qu'on dirait positif. Mais là, la défaite dont je vous propose de parler, c'est une défaite magnifique, comme disait un prédicateur. Et je vous invite à lire la Bible en Genèse, c'est Genèse 32, on ne va pas lire tout le chapitre. C'est un passage qui m'a interpellé, qui n'est pas un passage très simple à interpréter, mais voilà, qui parle d'une personne dans laquelle je me reconnais beaucoup. C'est Jacob, donc un des patriarches comme on les appelle. Jacob et moi, on a beaucoup de points communs, et plus je le connais, et plus je me dis qu'il me ressemble. Mais je pense qu'il nous ressemble un peu à chacun, et c'est ça ce qui est bon dans la Bible, c'est qu'elle nous décrit des personnes humaines dans lesquelles on s'identifie totalement. Donc c'est Genèse 32, donc je vais commencer au verset 1. « Le lendemain de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. » Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria « C'est ici le camp de Dieu !» Et il nomma ce lieu « Mahanaïm », les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes et j'en fais informer mon seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Car il se disait, si Ésaü attaque un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. » Là, car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. » Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit, dans ce qu'il avait à sa disposition, de quoi faire un présent à son frère Ésaü. Donc là, il va un petit peu organiser ses affaires, et puis il va faire passer devant lui tout un tas de cadeaux pour Ésaü en les divisant, donc je passe sur cela. Et puis on passe au verset 23. « Dans la nuit, il se leva, emmena ses deux femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ? » demanda l'homme. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, » reprit l'autre, « tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Alors pour les enfants qui nous accompagnent, puisque je suis sûr que vous connaissez bien le livre de Genèse, pour resituer un petit peu le contexte qui est Jacob, il a reçu un prénom qui n'est pas très flatteur, puisque comme vous le savez, il est né jumeau, et il tenait le talon de son frère aîné, et donc c'est celui qui supplante, c'est celui qui tient le talon, le trompeur. Ça n'a pas été, je dirais, forcément une enfance très facile, si on veut le ramener à des standards du XXIe siècle, dans le sens qu'on voit qu'il n'avait pas forcément au moins l'approbation, ni même la valorisation du côté de son père. Par contre, il l'a trouvé du côté de sa mère. Il y avait probablement des petits dysfonctionnements là, dans ce couple, avec un garçon qui était préféré par le papa et un garçon qui était préféré par la maman, Jacob faisant partie, étant le deuxième garçon. Et Jacob va vouloir un peu cette approbation, en fait, de son papa, et surtout prendre la place de son frère aîné Ésaü. Et donc, il va créer tout un subterfuge, sur lequel je ne vais pas revenir, pour s'approprier de la bénédiction qui était réservée normalement à son grand frère. Et il va, la conséquence, c'est que son frère est tellement en colère contre lui qu'il va devoir s'enfuir, menacé de mort, et c'est la première fuite de sa vie. Et puis, il va atterrir chez son oncle, le frère de sa maman, et là, il va tomber sur quelqu'un d'aussi, voire plus, trompeur que lui. Et il va y rester des années, il va épouser deux filles, là aussi des subterfuges en cascade. Et il va finir, pour pouvoir se libérer, on va dire, de son oncle qui a une emprise sur lui de bien des façons, il va finir par devoir quitter presque en catimini. Et si on lisait le chapitre 31, on verrait que si Dieu n'était pas intervenu pour calmer Laban, l'histoire aurait pu se terminer en bain de sang, en fait. Et ça, c'est une deuxième fuite dans la vie de Jacob. Donc, situation familiale de Jacob au moment où on le rencontre en Genèse 32, situation familiale compliquée. Derrière lui, il y a son oncle, bon, d'être un peu en meilleur terme. Et devant lui, il y a ce frère qu'il n'a pas revu depuis le moment où il était menacé de mort. Alors, Dieu dans tout ça, Dieu, il est où ? Ben, sur le chemin de l'exil, quand Jacob a dû quitter ses parents, Dieu lui est apparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il s'est révélé à lui et il lui a fait une promesse, qui est une promesse magnifique. Je vais quand même vous la lire, puisqu'il la cite en fait dans la prière là, de ce chapitre. Cette promesse, elle se trouve en Genèse 28, et Dieu lui a dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'est, vers le nord, vers le sud, par toi et par elle. Toutes les familles de la terre seront bénies, et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, je te ferai revenir dans cette région, je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » C'est une promesse qui est magnifique. Et on voit que Dieu a permis que Jacob sorte de chez Laban enrichi. Et Jacob a conscience de ça, hein, puisqu'il dit « Si Dieu ne m'avait pas fait du bien, tu m'aurais renvoyé à vide. » Donc Jacob est conscient que Dieu lui a fait une promesse. Il a la preuve matérielle que Dieu lui a fait cette promesse, puisqu'il ressort enrichi de chez son oncle. Et sur le chemin du retour, en plus, il fait une rencontre étonnante. Et là, on est au chapitre 32 qu'on a lu. Puisque je ne sais pas si vous avez vu la première rencontre qu'il fait après avoir quitté son oncle, c'est des anges qui viennent le rencontrer. Et il appelle ce lieu Mahanaïm. Alors on ne sait pas très bien pourquoi ces anges sont venus, ni de quelle façon ils se sont présentés à lui. Moi, il me semble que ces anges, c'est un petit peu une manière de rappeler à Jacob la promesse qu'a fait Dieu. C'est un peu comme si Dieu lui souhaitait la bienvenue dans le pays qu'il a promis de lui donner, hein, même s'il n'est pas encore totalement arrivé. Mais c'est un peu comme un rappel de la promesse de Dieu. Dieu est là pour l'accueillir dans ce retour qu'il est en train d'effectuer. Donc, du côté de Dieu, une promesse, une réalisation déjà matérielle et des anges qui accueillent. On peut difficilement faire moins. Et la foi de Jacob dans tout ça, il en est où, lui ? Là non plus, pour Jacob, c'est jamais facile de répondre à cette question. Où en est la foi de Jacob ? Le moins qu'on puisse dire, ou le plus qu'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'elle est en construction cette foi. Il est conscient de l'intervention de Dieu pour lui, comme je l'ai dit avant, par rapport à l'enrichissement dont il a bénéficié. Mais il y a encore un peu cette idée, j'ai l'impression, chez Jacob, de Dieu comme un intervenant un peu extérieur. C'est intéressant de voir comment il appelle le lieu après avoir rencontré les anges. Il y a deux camps. Un peu comme il y a le camp de Dieu. Et puis il y a mon camp. Bon, ça va faire écho après aux deux camps qu'il va faire aussi un peu plus loin quand il va séparer ses troupeaux. Mais il y a un petit peu, là il y a le camp de Dieu et puis il y a mon camp. Et puis quand on voit Jacob prier pour la première fois, je pense que c'est la première fois, hein, vous pouvez me corriger si vous avez trouvé une autre prière de Jacob, mais je pense que c'est la première fois dans la vie de Jacob où on le voit prier, en tout cas où ça nous est rapporté. Peut-être qu'il a prié avant, on ne sait pas. Mais en tout cas là, c'est la première fois que ça nous est rapporté. Alors il reconnaît sa petitesse, il reconnaît la fidélité de Dieu, c'est une très belle prière je trouve. Et en même temps, on peut noter peut-être deux petits bémols. D'abord, il appelle Dieu le Dieu de mon père Abraham et de mon père Isaac. Alors oui, c'est vrai, c'est souvent hein, quand on voit dans les prières de l'Ancien Testament où on rappelle la filiation, c'est important. Mais ce n'est pas tout à fait encore mon Dieu. Et puis surtout, après avoir prié, une fois qu'il a prié, c'est peut-être là aussi où je me reconnais, c'est qu'il recommence ses petites combines. Donc c'est là qu'il va, une fois qu'il a prié et qu'il demande à Dieu de le délivrer, il lui rappelle, mais tu m'as promis quand même, hein, donc souviens-toi. Et juste après, hop, allez, on va diviser les troupeaux, on va en faire passer d'abord un, et puis si ça va l'amadouer, puis on pourra passer le deuxième, et puis chaque fois on rappellera, c'est pour mon Seigneur Ésaü, c'est pour mon Seigneur Ésaü, c'est pour mon Seigneur Ésaü. Toujours cette idée de, on va s'en sortir. Mais on comprend aussi l'angoisse de Jacob, parce que la situation ne s'améliore pas. Parce que quand il va envoyer le message à son frère Ésaü, quelle est la réponse qu'il a ? Les enfants, vous avez entendu, avec combien d'hommes Ésaü vient lui rendre visite, Elena ?
400.
400 hommes. C'est un peu impressionnant quand on sait, la dernière relation qu'on a eue avec la personne n'était pas en meilleurs termes, et qu'on sait que cette personne vient avec 400 hommes armés. Bon. Une petite pause pour réfléchir. On est tous des Jacob. Plus ou moins menteurs. Plus ou moins trompeurs. Et surtout, la base dans notre vie, c'est qu'on souhaite se débrouiller tout seul. Un peu comme c'était la base dans la vie de Jacob. On vit tous aussi, on y a fait allusion, des situations familiales et relationnelles qui sont compliquées. Il n'y a pas de famille parfaite, mais ça, ce n'est pas à des gens déjà aussi expérimentés que vous que je le dis. Vous le savez, je le sais aussi. Et donc, la famille de Jacob, elle ne nous est pas étrangère par tous ces dysfonctionnements aussi. Et le stress, la peur que Jacob y ressent, c'est des réactions qui sont totalement normales. La troisième chose que je note là, c'est que Dieu, malgré tout ça, il veut avoir une relation avec chacun de nous. Et si on place notre confiance en lui, on a les mêmes promesses, en fait, que Jacob. Et en même temps, on a tous la même tentation, qu'on a reçu ces promesses-là, mais on a plus souvent tendance à recourir à nos combines plutôt qu'à faire confiance à Dieu. Alors on est tous face à nos péchés et à nos peurs, en fait. C'est juste ça qu'on peut dire. Mais il y a ce combat. Il y a ce combat. Cette défaite. Le Dieu qui s'approche pour combattre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le moment est propice au combat. C'est un moment propice. Il y a deux choses que je note au moment du combat. Là, je suis passé au verset 23. Il y a d'abord la solitude. Jacob est complètement seul, cette fois-ci. Donc une fois sa combine réalisée, Jacob, il passe le torrent du Yabok et il se retrouve tout seul. Il n'a plus toutes les possessions qu'il a fait passer au loin. Il n'a plus non plus ses femmes ni ses enfants qui sont de l'autre côté. Et je vois quand même un clin d'œil de Dieu ou un signe de son humour, si j'ose dire, dans le nom du torrent, qui est un peu un... Il y a quand même un petit jeu de mots. Hein. Il y a Yabok et Yaakov. Yabok, c'est « il se vide », le torrent. C'est « il se vide », le nom du torrent. Et Yaakov, c'est le trompeur. Jacob a tout laissé derrière, de l'autre côté. Il est vidé, au sens propre, j'ai envie de dire, puisqu'il est détaché hein, de tout ce qui de sa famille, de ses possessions. Et puis, il y a aussi ce côté vidé, parce que, en fait, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il est vidé, totalement. Le trompeur, celui qui fait les combines, là, et voilà, il n'y a plus rien à faire, il a tout organisé. Et puis, la deuxième chose qui est propice au combat, à part cette solitude, c'est l'obscurité aussi. On est dans le noir, c'est la nuit. La nuit, c'est le moment où on y voit le moins, hein, ça, je ne veux pas vous l'apprendre. C'est le moment où on est le moins capable de s'orienter et c'est aussi le moment où les peurs sont les plus grandes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les enfants, ils le savent. Ils aiment bien qu'on laisse la lumière allumée la nuit. Mais les adultes, en fait, ce que vous ne savez pas, les enfants, c'est que c'est pareil. Les adultes, la nuit, s'ils se réveillent, en tout cas moi, c'est comme ça, si je me réveille la nuit et qu'il y a des choses qui me préoccupent, ça prend une ampleur, la nuit, beaucoup plus grande que le jour. Et là, Jacob est seul. Qui pourra l'accompagner? Qui pourra le soutenir? Qui pourra le réconforter là? Personne. Et au début d'ailleurs, on a tout d'un coup ce combat qui commence. Et c'est un étrange combat. C'est un étrange combat par la durée. Un homme d'un certain âge, je ne me souviens plus l'âge, j'ai plus recherché là, quel âge il avait, Jacob, mais enfin il n'était pas de la toute première jeunesse.
Plus de 80 ans.
Plus de 90 ans, vous avez les âges? Ouais. Et donc là, il dure, vous avez entendu les enfants combien de temps il a combattu avec cet homme? Ça a duré toute la nuit. Un combat qui dure toute la nuit. Ça, c'est déjà étonnant, on va dire. C'est un premier fait étonnant. Mais ce qui est plus étrange, c'est l'identité de l'agresseur, qui est très floue, en fait, si on relit le texte. D'abord, on nous dit que c'est un homme qui apparaît et qui commence à lutter avec Jacob. Cet homme, visiblement, il vient sans armes. Il n'a pas d'armes. Ce n'est pas un brigand. Ce n'est pas un berger des environs. Ce n'est pas non plus Laban. Et ce n'est même pas Ésaü, personne avec lequel Jacob a quand même combattu, dans un certain sens. Hein. Jacob, lorsque l'homme lui déboîte la hanche, là, Jacob, il voit que c'est inhabituel et donc il suspecte que c'est un être extraordinaire et donc il lui demande « Mais quel est ton nom ?» Quand on demande le nom, en fait là ça veut dire on veut connaître l'identité de la personne, on veut savoir mais t'es qui ? C'est un peu, il lui dit mais tu es qui toi ? C'est un peu sa manière de lui dire. Et la réponse de l'homme qui refuse de lui dire directement, hein, mais qui en même temps va changer le nom de Jacob en lui disant « Tu as lutté avec Dieu », ben, ça met Jacob sur la piste. C'est plus qu'un homme qui est venu là. C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face ». Il y a le prophète Osée qui parle de cet épisode, c'est Osée 12, verset 5. Et quand il parle de cet épisode, Osée, il maintient le même flou sur l'identité, puisqu'il dit « Dans son âge mûr, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur ». Donc, Osée parle à la fois d'une lutte contre Dieu et d'une lutte contre un ange. Donc, l'Ancien Testament, il nous rapporte hein, plusieurs fois des apparitions comme ça de Dieu, en tout cas sous la forme souvent de l'ange de l'Éternel. Alors, pour que vous ne vous endormiez pas, je vois que vous ne dormez pas, donc ne vous inquiétez pas, mais c'est de la rhétorique. Pour que vous ne vous endormiez pas, quelles sont les personnes qui ont vu apparaître Dieu sous la forme de l'ange de l'Éternel? On a d'autres personnes dans l'Ancien Testament qui ont vu apparaître l'ange, qui ont dit c'est Dieu. Pour les enfants, c'est un peu compliqué.
Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit des adultes qui répondent, en fait, hein, tout simplement.
On en a plusieurs. Moi, j'en ai relevé 5 ou 6, il y en a peut-être plus. Il y a Agar. Abraham, pas directement l'ange de l'Éternel, mais en tout cas, oui, Dieu lui a parlé de toute façon. On a Moïse aussi. On a Manoah et sa femme, effectivement. Ouais. Il y a les parents de Samson aussi. Bon. Donc, souvent, on voit cet ange qui est identifié à Dieu et parfois, on l'identifie déjà comme une pré-incarnation, dans un sens, on peut dire. Dieu qui apparaît, qui se fait homme, ça nous fait penser à quelque chose qui va se produire plus tard, de plus grand, de plus complet. Alors, l'identité de l'agresseur, elle est floue, jusqu'à ce que ça s'éclaircisse progressivement. Et l'objectif du combat, il est flou aussi. Pourquoi cet homme vient combattre Jacob? Pourquoi? Vous avez remarqué que c'est pas Jacob qui commence à combattre l'homme. C'est l'homme qui vient l'attaquer. C'est pas Jacob, là. Mais c'est cet homme qui vient l'attaquer. Pourquoi on attaque les gens? Ah, Émile, tu peux me répondre, ça? Pourquoi on attaque les gens? Quelles sont les différentes... Pourquoi? Parce qu'on s'aime pas, oui. Mais sauf que cet homme, visiblement, au début, Jacob le connaît pas. Donc comment il pourrait venir juste parce qu'il l'aime pas? C'est étonnant. D'autres raisons pour lesquelles on peut attaquer quelqu'un? Oui, Anna?
Parce qu'il a de l'argent.
Parce qu'il a de l'argent, oui. Mais sauf que là, elles sont où, les possessions de Jacob? Tout ce qu'il avait? Bah oui, de l'autre côté de la rivière. Donc il ne l'attaque pas à cause de son argent. Il ne l'attaque pas à cause de son argent. Moi, une autre raison auquel j'ai pensé pour laquelle on attaque les gens, c'est tout simplement pour leur faire du mal. Un peu ce que dit Émile, parce qu'on ne l'aime pas. Mais si cette personne avait vraiment voulu faire du mal, est-ce que si Dieu avait vraiment voulu faire du mal à Jacob, est-ce qu'il ne l'aurait pas fait depuis le début? Est-ce que Dieu n'était pas assez puissant pour faire du mal à Jacob sans avoir besoin de combattre avec lui? Pourquoi il l'a rendu boiteux? Si le but c'était de rendre Jacob boiteux, pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début? Je te touche la hanche, pouf! Il n'avait que ça à faire. Alors qu'est-ce qu'il veut, Dieu, en fait, quand il attaque Jacob? Moi, je pense que la seule réponse qui nous reste, c'est que Dieu désire être avec lui, désire être avec Jacob, lui enseigner quelque chose, lui apprendre quelque chose, le faire progresser dans sa relation avec Dieu, se révéler à lui, ça veut dire se montrer à lui d'une manière nouvelle. Et le résultat, c'est que c'est un combat qui transforme Jacob. Je pense. Jacob, il a rencontré Dieu d'une façon toute nouvelle. La première fois qu'il a vu Dieu à Bethel, Dieu était dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vision. Il y avait cette échelle. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Mais Dieu, il était où? Dans le ciel. À Mahanaïm, juste avant, c'est pas Dieu qui est venu, mais il y avait deux anges. Et là, il y avait le camp de Dieu et mon camp. Mais là, Dieu vient comme un homme, et il se laisse toucher. Et ça, moi, je trouve que c'est le moment le plus émouvant, finalement, de cette histoire. Dieu se laisse toucher. Dieu se laisse combattre. L'Éternel des armées, celui qui, d'un mot, peut créer, se laisse combattre jusqu'au matin. Et Jacob peut vraiment dire, j'ai vu Dieu, j'ai vu. J'ai vu Dieu. C'est ce qu'il dit à la fin. Hein. J'ai vu Dieu. Ça me fait penser à Job. Vous vous souvenez de ce que Job a dit à la fin de sa vie, de ses épreuves? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je pense que Jacob, il a fait cette expérience aussi. J'avais entendu parler de toi, tu m'avais déjà parlé même, mais là, je t'ai vu. Dans sa prière de désespoir, Jacob y parlait de la grâce de Dieu. Souviens-toi de « je suis trop petit pour ta grandeur ». Il parlait de ça, Jacob. Mais là, il a pu la voir, sa grâce, en action. Est-ce que vous connaissez beaucoup de dieux qui acceptent de se laisser vaincre par leur créature? Parce que l'homme qui combat, au début, il voit que Jacob est en train de dominer sur lui. Vous connaissez beaucoup de dieux dans n'importe quelle religion qui se laisse vaincre comme ça par sa créature? Les gens qui ne s'humilient pas devant Dieu et qui prennent la place de Dieu, Dieu est tout à fait capable de les éliminer, hein, ça arrive aussi dans la Bible. On voit un Nebuchadnezzar qui s'est à un moment donné pris pour Dieu et Dieu l'a humilié, vraiment. On voit aussi un Hérode, voix de Dieu et non pas d'un homme, où Dieu a immédiatement agi pour le réduire au silence, parce que personne n'est comparable à lui. Jacob, il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir entre les bras du Dieu saint. Et pourtant, il constate avec surprise à la fin. Moi, je pense qu'il y a comme de la surprise. J'ai vu Dieu, et qu'est-ce qu'il dit après ? Mon âme a été sauvée. La grâce de Dieu en action. Alors, il va avoir une nouvelle vision de lui-même aussi, par ce combat. Même si, alors je veux pas non plus trop interpréter Jacob, même s'il disait le contraire dans sa prière, je pense que Jacob, au fond, il se croyait quand même un petit peu fort. Je crois qu'il voulait contrôler encore tout un tas de choses. Et là, avec ce combat, en fait, il va devoir accepter sa faiblesse. Il va devoir accepter. Et ça va se manifester sous la forme d'une infirmité physique qui va rester d'ailleurs. Il va boiter. Et ça, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça va d'ailleurs, pour qu'il accepte sa faiblesse, ça va tellement le marquer lui, que ça va être quelque chose qui va être même transmis à ses descendants sous la forme d'une tradition alimentaire. Donc c'est, il doit accepter sa faiblesse. Ça me fait penser aussi à l'apôtre Paul, qui a vécu un petit peu finalement la même chose. Celui qui mettait les autres en prison, qui a dû accepter, lors d'une rencontre avec Dieu, de devenir aveugle. Et puis beaucoup plus tard aussi dans son ministère, Dieu va lui dire aussi, hein, vous connaissez ce verset, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi là, dans Jacob. Une nouvelle vision de lui-même. Je ne suis pas au contrôle de tout, je suis réellement faible et j'ai besoin de Dieu. Il reçoit une nouvelle identité, nouvelle vision, nouvelle identité. Dieu lui demande son nom. Mais, Émile, Dieu, il savait le nom de Jacob avant de lui demander ou il ne le savait pas ? Bah oui, il le savait. Il sait nos noms même avant qu'on naisse. Il le savait. Alors pourquoi il lui demande son nom ? Pourquoi il lui demande son nom ? Et moi, je trouve toujours très beau, et je le vois en Jésus aussi, dans sa vie sur la terre, que Jésus pose des questions sur des choses où, a priori, il sait déjà. Pour qu'on dise. C'est ce qu'on appelle la confession, quelque part. Dire les choses. Et là, quelque part, quand Dieu lui demande son nom, c'est aussi une confession. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle trompeur. C'est pas très joli de s'appeler comme ça. Je m'appelle trompeur. Je suis celui qui supplante, celui qui tient par le talon. Mais dans sa grâce, il reçoit un nouveau nom. Et ce nom est magnifique. Alors Dieu, il change souvent, ça lui arrive plusieurs fois dans la Bible, de changer les noms des personnes. Souvent, quand il veut donner une mission particulière, quand il va renouveler la vision de la personne, quelles sont les personnes qui ont été changées, dont les prénoms ont été changés, qui ont reçu un nouveau prénom ? Sarah, Abraham, par exemple. On a aussi Pierre, voilà. Il y en a plusieurs qui ont eu leur nom qui sont changés. Jacob aussi, lui qui était le trompeur, il devient le vainqueur. Le nom qu'il reçoit, en fait, Israël, donc là vous avez vu dans la version Summer, il donne directement une traduction pour nous aider. En fait, c'est un peu ambigu, en fait. Ça peut être à la fois vainqueur de Dieu, ou ça peut être aussi Dieu et vainqueur. Donc c'est les deux. En fait, c'est pour nous montrer que dans ce combat, finalement, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Jacob est vainqueur, mais au fond, Dieu aussi est vainqueur, puisqu'il a quand même démis la hanche de Jacob. Et puis en plus, moi je pense ce nom, l'explication qui est donnée à ce nom, il lutte avec Dieu et il lui dit « Tu t'appelleras Israël car tu as lutté avec des hommes » et avec Dieu. Et pour moi, ça rappelle toute la vie de Jacob. C'est une personne qui a dû lutter contre son frère à cause de ce qu'il avait fait, contre son oncle aussi en partie à cause de ce qu'il avait fait, et puis qui qui luttent aussi avec Dieu. Des luttes négatives, on peut dire, et des luttes positives. Le péché et la grâce. Je trouve qu'il y a tout ça dans ce nom d'Israël. Le péché, la grâce. Vainqueur de Dieu, Dieu est vainqueur. Alors sa relation à Dieu, à Jacob, on voit qu'elle a énormément, il me semble, progressé. Parce que quand il comprend que c'est Dieu, on voit qu'il désire la présence de Dieu. Au départ, il combat Dieu pour résister à son agression, mais à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit ? Après la démission de sa hanche, il lui dit de rester. Il veut que Dieu reste. En fait, il me semble que là, peut-être Jacob, il a compris que sans Dieu, il pouvait rien, que Dieu n'était pas là pour lui faire du mal, même si ça paraissait comme quelque chose de mauvais au départ, même si toutes les circonstances paraissaient contraires, mais il veut que Dieu reste pour lui faire du bien, et il est béni par Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose de magnifique. Il le bénit là. Ce qui est intéressant, c'est que Jacob, il semble vouloir connaître davantage Dieu, puisqu'il lui demande comment il s'appelle. Est-ce que Dieu répond à cette question ? Est-ce que Dieu répond quand il lui demande son nom ? Anna, tu te souviens dans ce passage ? Est-ce que Dieu, quand Jacob lui demande « Quel est ton nom ?» Il répond un petit peu ? Il répond un petit peu ?
Et toi, il lui dit qu'il a combattu contre Dieu, donc il lui dit son nom.
Eh oui, mais est-ce que le nom de Dieu apparaît là ? Est-ce que Dieu dit son nom ? Est-ce qu'il dit « Je m'appelle comme ci ou comme ça » ? Non, Dieu ne lui répond pas directement, comme s'il disait à Jacob « Je suis trop grand pour être réduit à un nom. Me connaître entièrement, c'est impossible. Je peux pas, tu vas pas arriver à me connaître là. Je ne peux pas me donner toute mon identité là devant toi. Le moment n'est pas encore venu peut-être aussi de révéler mon nom. Mais tu vas me connaître par ce que je fais. » Et c'est un peu la même réponse que Dieu, d'ailleurs, il a fait à Manoah. Hein. Manoah a posé la même question, donc Manoah dont on parlait tout à l'heure. Il lui a posé la même question, « Comment tu t'appelles ?» Et là, Dieu a répondu quelque chose de magnifique aussi. « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, vous connaissez, vous pouvez compléter. « Il est merveilleux. »« Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il est merveilleux. C'est en Juges 13, verset 17. Alors, il y a quand même quelque chose là qui a changé, il me semble, chez Jacob, dans sa manière d'aborder Dieu. Est-ce que ça a tout changé dans sa vie ? Non. On aimerait, en tant qu'évangélique, on aimerait dire « c'est sa rencontre, c'est sa conversion », mais non, ça n'a pas tout changé dans sa vie, pas encore. Suite à cette rencontre, les combines, elles vont continuer. Hein. Si on regardait au chapitre 33, par exemple, il faudra à nouveau une nouvelle rencontre à Bethel, le lieu de la première apparition de Dieu, au chapitre 35, pour que la famille se débarrasse, par exemple, des idoles, des statues qu'ils avaient chez eux. Donc, ça n'a pas tout changé. Mais en tout cas, il y a eu ce moment fort dans la vie de Jacob où Dieu s'est approché pour se révéler un petit peu plus. Alors, pour nous, pour terminer aussi, ça c'est ce qu'on dit quand on veut raccrocher l'attention, on doit tous passer par un Péniel. Il y a d'abord, parce que Péniel c'est le nom de cet endroit, hein, c'est la face de Dieu, là où il a vu la face de Dieu. Il y a d'abord eu un Péniel, il me semble, historique, encore plus grand que le Péniel par lequel Jacob est passé. Dieu est venu combattre avec toi. Il a pris la forme d'un homme, vraiment, d'une manière encore plus parfaite que cette apparition que Jacob a vécue. Il s'est fait faible. Il s'est fait faible en Jésus-Christ. Et alors que j'aurais dû mourir, que tu aurais dû mourir condamné pour le mal que tu as fait, pour le mal que j'ai fait, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, il a accepté de tout perdre, d'être vaincu, de donner sa vie pour te sauver. En fait, en Jésus, l'apôtre Jean il dit, en Jésus, nous avons vu Dieu. En Jésus, nous l'avons touché, hein. Nous l'avons contemplé, et comme dit Jacob, notre âme a été sauvée. Donc, tout homme est dans un combat, en fait, avec Dieu, tout comme Jacob. Et Dieu est là pour nous convaincre aussi par son esprit qu'on a besoin de lui, qu'il nous aime, qu'on est éloigné de lui et qu'on a besoin de recevoir son amour, son pardon gratuit aussi en Jésus-Christ. Donc la première chose qu'on a à faire dans notre vie, c'est à laisser Dieu nous démettre la hanche. On a besoin de laisser Dieu nous démettre la hanche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a besoin de comprendre que Dieu est plus fort que nous, plus grand que nous, plus saint que nous, nous sommes faibles, et que seul lui peut vraiment nous sauver. C'est ça, se laisser démettre la hanche. C'est à un moment donné dans notre vie, hein, Emily, dans notre vie, on a besoin de dire ça. Moi, je suis... Je fais du mal. Parfois. Souvent. Et j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es là. Tu es venu combattre à ma place. Et tu es mort pour moi sur la croix. Se laisser démettre la hanche. Mais Péniel, ça arrive aussi dans la vie des chrétiens, de ceux qui ont déjà confié leur vie à Jésus, j'ai envie de dire. On lutte avec Dieu dans beaucoup d'aspects de nos vies, hein, dans notre stress, dans nos peurs, avec les conséquences aussi, hein, comme Jacob, de nos erreurs passées aussi. On a du mal à abandonner nos manières de résoudre nos problèmes, toutes nos petites combines. Mais en fin de compte, c'est quand même Dieu qui a raison, et c'est quand même Dieu qui, ce qu'il a voulu, qui va triompher. C'est sa volonté qui va s'accomplir, et pas la nôtre. Alors Dieu, il veut encore s'approcher de nous ce matin pour nous dire « Abandonne tout ça entre mes mains. Je suis là pour combattre avec toi. Ça, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Abandonne ça entre mes mains. » Et nous, alors, on peut dire à Dieu vraiment « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » On peut lui dire ça, hein. On a chacun des choses dans lesquelles on lutte aussi, peut-être avec Dieu, et on peut lui dire ça par rapport à un problème particulier. Je ne veux pas te laisser partir avant que tu m'aies fait du bien. On a cette certitude d'ailleurs, qu'il ne partira pas avant de nous avoir fait du bien, et c'est ce qu'on veut rappeler en début de cette année. Et je veux simplement lire le verset auquel j'ai fait allusion en Osée 12, versets 4 à 7. C'est Osée donc qui parle de l'histoire de son ancêtre. Et il dit, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel, et toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Et je trouve que c'est un magnifique programme aussi, hein, pour cette année. L'Éternel, le Dieu des armées, celui qui a trouvé Jacob à Bethel. Son nom est l'Éternel. Toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Alors je vous propose juste qu'on termine par la prière.